Bonsoir à tout le monde. Alors, j'aimerais encore une fois nous inviter à faire un petit parcours dans la parole de Dieu. Nous allons lire ou relire Néhémie au chapitre 1er, du 3e au 11e verset. La seconde lecture, elle est aussi assez longue. Néhémie toujours au chapitre 2. Et là, nous lirons d'abord la fourchette allant du 1er au 8e verset. Et puis nous lirons le verset 18, 19 et 20. Néhémie chapitre 1er, verset 3 à 11. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Et puis 18 à 20. Je voudrais demander un peu comment à l'école vous y êtes. Voilà. Je suis content d'être parmi les francophones. Parce qu'un jour chez nous au pays, j'ai dit comme ça, vous y êtes. Quelqu'un dit, oui, nous y êtes, pasteur. Néhémie chapitre 1er, verset 3 au verset 11. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai. Je priais devant le Dieu des cieux. Je dis au éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse à ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, dès là je vous rassemblerai. Je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Qui sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Chapitre 2, verset 1 à 8, et puis verset 18 à 20. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme les vins étaient devant lui, j'ai pris les vins et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié les dieux des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi les trouve bons, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Verset 18 à 20. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles les rois m'avaient adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez contre les rois? Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera des succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons. Et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Reconstruire sur d'anciennes ruines. Le premier incontournable pour reconstruire, nous avons dit qu'il était nécessaire d'être conscient que ruine il y a eu. Ne pas se leurrer, ne pas se voiler la face, ne pas faire comme l'autruche, vouloir ignorer une réalité évidente. Mais le deuxième incontournable, nous avons dit, malgré le fait que nous prenions conscience que ruine il y a, avoir la foi. Avoir cette certitude que Dieu est capable de transformer un chaos en une autre chose. Mais le troisième incontournable que nous voulons voir ce soir, c'est avoir Dieu comme associé ou partenaire. On ne peut reconstruire sans Dieu. On ne peut relever d'antiques décombres qu'avec Dieu. Et ce soir, avant d'aller plus loin, j'aimerais un peu comme planter les décors de cet enseignement en faisant mention de quatre choses auxquelles je crois. Vous avez la liberté de penser le contraire ou de penser autrement ou peut-être mieux que moi. Mais ce sont des choses qui sont vraiment déposées dans mon cœur en étudiant la parole de Dieu avec cette petite expérience, j'ai dit bien, cette petite expérience que j'ai dans ma marche avec Dieu. La première des choses à laquelle je crois à la capacité de l'homme à faire des choses, à trouver des solutions aux problèmes, mais en même temps, je sais aussi que l'humain est limité et imparfait. J'aimerais le reprendre. Je crois à la capacité de l'homme à faire des choses, à trouver des solutions aux problèmes, mais je sais aussi avec certitude que l'humain est limité et imparfait. Quand on lit le psaume 82 au verset 6e, le psalmiste dit, il nous a fait de Dieu. Et il est étonnant de voir tout ce que l'homme peut faire aujourd'hui. Il est étonnant de voir tous ces progrès scientifiques. Cela montre tout ce que l'homme a. Et l'homme de plus en plus aussi, il est tellement conscient de ce qu'il peut faire que l'humanisme étant à prendre la place, on met Dieu de côté. Mais dans psaume 127 au verset 1er, les psalmistes, et dans ce cas, c'était Salomon. Et quand Salomon chante ces psaumes, il les chante sur base d'un vécu. Un homme riche dans son vécu, riche dans son expérience. Et il dit cette phrase qui n'est pas anodine. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il veut insister sur le partenariat de Dieu. Il veut dire, beaucoup d'efforts, si on met Dieu de côté, ça peut ne pas réussir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La version française courant amplifie encore cela. Écoutez ce que la version française courant dit. C'est en vain que les maçons se donnent du mal si Dieu n'est pas artisan. La version nouvelle Bible et seconde dit, si Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent inutilement. La version Tob, traduction œcuménique de la Bible, va encore approfondir si Dieu, si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent pour rien, pour le vide. La deuxième des choses à laquelle je crois que l'homme est un être limité, qui finit toujours par atteindre un seuil d'incompétence. Avoué ou inavoué, quelles que soient les aptitudes, quels que soient les diplômes, l'homme arrivera toujours à atteindre un seuil d'incompétence. On raconte l'histoire d'un vieux médecin, plus de 70 ans, spécialiste, un problème neurologique et plusieurs PhD, une ou deux fois semble-t-il nominé dans les prix Nobel. Et puis il a eu en face une dame qui est venue présenter un problème neurologique qui n'arrivait pas à retrouver dans son dictionnaire médical. Il a posé les questions, vous savez, comme toujours, il essaie d'avoir les informations. Ayant les informations, il peut dire, bon, ça, c'est pas la malaria, ça peut être la fièvre typhoïde, parce qu'en plus, les poussées de fièvre, il y a ça. Alors, il a dit à la dame, attends un peu. Il est retourné derrière son bureau, il a ouvert son gros dictionnaire avec ses grosses lunettes, il a fouillé. 30 minutes après, la dame a demandé, docteur, tu es toujours là? Il dit, encore là. Et puis, il trouvait rien. Et puis, il revient, il dit, docteur, il y a un problème avec ma maladie. Il dit, oui, j'ai un problème. J'arrive pas à savoir de quoi tu souffres. Alors il demande la dame, il dit, tu l'as déjà eu? Il dit, oui. Alors j'aimerais simplement te dire, tu l'as de nouveau. Je ne sais pas te dire de quoi il s'agit. Mais je sais au moins te dire, tu l'as de nouveau. L'homme, quelle que soit son intelligence, quelle que soit ses vertus et ses capacités, atteint ou atteindra toujours un seuil d'incompétence. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 12, la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai dit, en termes de leadership, ça c'est les gens, des phrases qu'on ne doit pas et on ne peut pas prononcer. C'est un roi, c'est le numéro un dans notre constitution, les présidents, c'est les garants de la nation. C'est le commandant suprême. Et puis voilà, les pays sont attaqués par trois nations qui se sont liguées. Et il demande qu'il y ait une grande réunion, un grand rassemblement. Tout Juda est en prière. Écoutez sa prière. Nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse. Moi, j'aurais été conseiller en stratégie. Je dirais, roi, on ne dit pas ça. J'ai vu chez nous au pays, même quand ils ne maîtrisent rien. Voyez, les porte-parole de la présidence, il dit, nous maîtrisons la situation. Nous contrôlons tout. Et pourtant, ils savent qu'ils contrôlent plus rien. Il y a un hélicoptère qui l'attend à côté. Juste après la communication, il décolle, il fuit. Mais j'aime la sincérité de Josaphat. Je suis roi, mais j'ai atteint un seuil d'incompétence. Je ne sais que faire. Mais j'aime ce qu'il ajoute. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Je ne sais comment changer cette situation, mais j'essaie au moins fixer mes yeux sur celui qui peut tout changer. Combien de fois ne m'est-il pas arrivé de ne pas savoir ce que je dois faire? Mais quand je n'arrive plus à savoir ce que je dois faire, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 26 ainsi que verset 27e, presque une histoire similaire. Il y a une grande famine en Samarie. Et la Bible dit, la famine était tellement grande qu'ils ont commencé même à manger des choses qui étaient interdites aux Israélites. Toucher tout ce qu'il y avait comme viande, des pigeons. Et plus loin encore, ils sont allés jusqu'à manger la chair humaine. Parce qu'une femme est venue dire au roi, nous avons mangé son fils, je ne sais pas si c'était en bouillon ou en rôti. Et maintenant, je demande à ma voisine qu'on puisse manger son enfant. Elle ne veut pas. Ça, c'est l'un des pasteurs de mon pays. Il a dit, si on a commencé à manger les enfants, c'est que les chiens, les chats, les cancrés, là, tous ils étaient passés par la casserole. Et puis voilà, les rois étaient en train de passer, et la Bible dit, et comme les rois passaient sur la muraille, une femme lui cria, parce qu'il estime, elle estime que c'est lui qui doit trouver les solutions au problème. Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Mais j'aime la sincérité de ces rois. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Il veut dire, tu viens toquer à la mauvaise porte. Je suis censé trouver des solutions, mais je n'en ai point. Je crois que l'homme est un être limité. Quand je parle ainsi, je pense un peu à moi-même. Je revoyais tout à l'heure tout mon parcours. J'étais presque à genoux et en larmes. Je suis né il y a 50 ans. J'ai totalisé 50 ans le mois de mars de cette année. Je suis né dans un tout petit village au centre de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui connaissent un peu mon pays, dans les Kasaï orientales. Je viens du même coin pour plus d'éléments que Lumumba. Et je suis né dans une mission protestante appelée Wimbonyama. Ma mère me disait sur 120 à 150 maisons qu'il y avait là-bas, il n'y avait que deux maisons qui avaient l'électricité. Et ma mère avait eu ma grande sœur qui était née en 61. Et alors qu'elle avait une année et demie, elle a eu une deuxième grossesse jumellaire. Et trois mois après, elle a perdu cette grossesse. Elle en a été marquée. Et 7 mois plus tard, elle m'a conçu. Et 2 mois après ma conception, mon père a quitté ce coin parce que c'était un jeune enseignant. Il voulait trouver mieux. Ça, c'était un coin reculé. Il est allé par l'est de notre pays à Kindu. Et puis, il est arrivé à Kinshasa. Et puis, le 6 mars 64, je suis né. 2 semaines après, la rébellion a éclaté. C'est quasiment un cycle qui revient régulièrement chez nous au pays. la célèbre rébellion qu'on a appelée la rébellion mouléliste. Et puis voilà, tout le village a fui dans la forêt, quasiment aux alentours de la forêt équatoriale. Elle a dit, 2 jours après que nous soyons dans la forêt, j'ai fait une forte infection du cordon ombilical. Forte infection. Il dit, au 3e jour, les puces sortaient. Il dit, quand on a puyé, c'était comme de la fontaine. Mais voilà, dans la forêt, il n'y a ni médecin, ni médicament. Il a dit, ce petit bébé pleurait tellement de douleurs et de fièvre durant 2 jours que tout le monde s'est éloigné des mamans parce que cet enfant pleurant, c'était du bruit et ça a tiré pour dire qu'il y a des gens ici. Des gens qui se cachaient, auraient voulu être silencieux. Et elle a dû rester seule, se disant, je ne peux fermer sa bouche. Elle a dit, au 3e jour, le soir, elle sentait que je respirais de moins en moins. Elle a fait un peu comme la mère d'Ismaël qui n'a pas voulu voir Ismaël mourir. Elle a dit, j'ai laissé cet enfant. Elle a dit, je ne voulais pas voir mon garçon mourir après que j'ai perdu cette grossesse jumellaire. Elle a dit, elle a fait une prière en quelques secondes. Vous savez, on n'a pas besoin de prier quelquefois 10 heures. Elle a dit, Seigneur, si tu veux le reprendre, reprends-le. Je comprends pas pourquoi tu m'as soutenu durant toute cette grossesse et que finalement je puisse venir perdre cet enfant dans cette forêt. Elle m'a dit, elle a fait une toute petite prière, me l'a rappelé la première fois quand j'avais 15 ans. Elle a dit, Seigneur, si tu sauves ces garçons, je te les donnerai. Et tu pourras en faire ce que tu voudras. Elle a dit, quand elle a fini de faire cette prière, il y a eu un silence. Elle s'est dit, c'est sûr, il est mort. Il est parti. Elle a dit, 1 heure après, elle est revenue en tremblant. Et quand elle a regardé le petit bébé transpirer, et bizarre, la plaie avait séché. Vous comprenez pas, il disait, non, c'est un cauchemar. Je venais dire encore à quelqu'un, tu entends la prière. Il y a des moments où vous ne savez que faire. Vous n'avez aucune solution. Et je me souviens, quand elle m'a rappelé ça, c'était à un moment où je commençais, jeune adolescent, à être turbulent, à faire toutes sortes de choses. Elle m'a dit, Roland, toi tu es en vie parce qu'un jour Dieu t'a empêché de mourir dans une forêt. 3e des choses à laquelle je crois à la toute puissance de Dieu. Je crois en sa force ainsi qu'à ses capacités illimitées, insoupçonnées et inconnues des humains que nous sommes. Dans Job, chapitre 42, le verset 2e, Job est rentré presque dans une sorte de plaidoirie vis-à-vis de Dieu. Et après qu'il ait posé des questions à Dieu, pourquoi ceci, Dieu s'est arrêté. Dieu a posé 66 questions à Job. Où étais-tu quand j'ai fait la terre? Où étais-tu quand j'ai établi les balais des saisons? Où étais-tu quand par ma force j'ai crié l'hippopotame, cet animal puissant? Et quand Job a entendu ces paroles, j'aime sa réaction à la fin. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu as une compétence illimitée. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, je reconnais que le Dieu de la Bible peut tout. La version française courant dit, je reconnais que tout est possible pour toi. Dans Jérémie, chapitre 32, au verset 27, un moment difficile dans la vie du prophète. Le prophète s'est levé de la part de Dieu, alors qu'Israël devait être attaqué par les Chaldéens, Nabucodonosor. Il donne une prophétie de la part de Dieu. Il dit, ça sert à rien de combattre cette nation qui vient. Parce qu'Israël sera emmené en captivité durant 70 ans. Et puis bizarre, après qu'il ait donné cette prophétie, Hanamel, son oncle, vient lui présenter un marché.
Dieu veut que tu achètes cette portion de terre. Et étonnant, alors que la nation va être conquise et tout le peuple va être emmené en captivité, Jérémie dit, j'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. C'est pas facile à digérer par rapport à mon côté cartésien, à mon côté logique. Mais il dit, j'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. Et alors qu'il a signé le contrat, il a acheté le terrain, il va questionner Dieu, mais pourquoi me fais-tu acheter un terrain? Alors que tu sais que très bientôt nous irons en captivité. Et Dieu lui parle, il dit, je veux te dire qu'on achètera encore des terrains et on bâtira encore des maisons dans ce pays. Et Dieu lui dit cette merveilleuse parole. Je suis le Dieu, dans Jérémie 32, verset 27, je suis le Dieu de tout ce qui vit, moi, le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour moi. D'autres versions disent, il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Rien n'est trop difficile pour moi. Jérémie, toi, tu fonctionnes dans la logique importée de Descartes et de tous ses descendants, vu que, entendu que donc. Avec Dieu, quelquefois, tout n'est pas logique. Moi, le Seigneur, dit la version français courant, je suis le Dieu de tout ce qui vit, et il n'y a rien de trop difficile pour moi. Il y a quelques années, dans mon pays, il y avait des gens qui cherchaient du travail, ils pouvaient mettre quelques écriteaux, et puis à la fin, ils mettaient aptes à tout travaux. Bien qu'ils n'étaient pas toujours aptes à tout travaux. Mais le Dieu de la Bible, il est réellement apte. Nous découvrons à peine ces facettes dans Luc au chapitre 8 au verset 25 et dans Luc chapitre 5 au verset 26, un groupe de gens qui ont certes marché avec lui et ils découvrent encore sa capacité à faire des choses. Ils étaient avec lui dans une barque et la barque était battue par les vents et les tempêtes. Et à un moment, ils ont tout essayé des solutions humaines. Quand ils sont pas arrivés, ils ont dit finalement, essayons de réveiller cet homme qui a une attitude anachronique alors que nous on est en train de sombrer, lui se repose comme si de rien n'était. Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? C'est ce que la Bible dit. Et il s'élève et la Bible dit, il dit au vent, tais-toi. Écoutez la réaction des disciples dans Luc 8, 25. Saisi de frayeur, il s'est dit, saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent, à l'eau et à qui ils obéissent? Nous l'avons connu qui multiplie les pains, qui purifie les lépreux. Mais quel est cet aspect? Qui est donc celui-ci? J'aimerais dire, le Dieu de la Bible, nous le connaissons à peine. Le peu que nous connaissons de lui, c'est ce qu'il permet que nous puissions connaître. Dans Luc chapitre 5, au verset 26, alors que Jésus-Christ a accompli un grand miracle, il y a une réaction tout autour. Écoutez ce que la Bible dit, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, dites avec moi étranges. Le terme étrange qui est placé là dans sa racine en grec, ça veut dire des choses inclassables. Nous avions un classement des choses. Et ce que nous venons de voir, nous avons difficile à classifier cela. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des choses étranges. Des choses qui nous échappent, qui échappent à notre entendement. Totalement. Totalement. Quatrième chose à laquelle je crois aussi que l'homme en association avec Dieu est capable de faire beaucoup. Je le crois fermement. Je crois que l'homme en association avec Dieu est capable de faire beaucoup. J'aimerais encore le dire autrement. Il est capable de faire bien plus que lui seul. C'est pourquoi qu'est-ce que c'est merveilleux de ne pas se priver de cet allié. Jésus parlant à ses disciples leur dira ouvertement dans Jean 15 au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien. Si vous vous détachez de moi, vous ferez certaines choses, mais vous manquerez l'essentiel. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais j'aime encore ce que le psalmiste, parlant de la part du Seigneur, dira dans Psaume 60, au verset 14, Et dans Psaume 108, au verset 14, c'est presque la même vérité. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand nous sommes avec Dieu, le terme exploit qu'il veut dire, il veut dire des choses grandioses. Nous ne les ferons pas seuls, nous les ferons en association avec Dieu. Avec Dieu. La version La Colombe dit, avec Dieu, nous agirons vaillamment. La version Nouvelle Bible Seconde dit, avec Dieu, nous déployons nos forces. Et le terme utilisé là, déployer nos forces, veut dire nous allons atteindre notre full potentiel. Mais avec Dieu, j'aimerais pas me priver de cet allié combien important. Et puisqu'il s'agit de Néhémie qui veut reconstruire les murailles, alors qu'il a conscience, après qu'il ait reçu les rapports, combien la situation est au comble du malheur, d'après les rapports qu'il a reçus, Néhémie chapitre 1, verset 3, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ses portes sont consumées par le feu. Il savait ce à quoi il devait faire face. Il était conscient de tout ce qui entourait ses tâches. Il était conscient de trois choses. Premièrement, il était conscient du coût en termes de matériel et de matériaux. Avoir le désir de reconstruire, c'est bien, mais ça aura un prix. Les matériels ainsi que les matériaux qu'il faut mettre ensemble. Deuxièmement, il avait conscience du coût en termes de main-d'œuvre. Les dégâts sont tellement grands qu'il faudra pas une minorité, il faudra beaucoup. Où vais-je trouver une telle quantité, mais aussi qualité des personnes? Troisièmement, il était conscient de l'adversité possible. Il était conscient que la situation de délabrement profiter certainement à certaines personnes qui ne voulaient que cela reste. Et lui, en venant reconstruire, il serait vu d'un mauvais œil. Parce que quelquefois, notre malheur est une source de profit pour certaines personnes. Et c'est cette triple prise de conscience qui l'a amené à placer Dieu au centre de son action. Et nous le voyons de plusieurs manières. Trois principalement. La première manière, il a placé la prière au début de son action. Je veux aller poser des actes physiques, mais j'ai conscience que mes actes physiques ne valent rien si Dieu ne m'accompagne pas. Néhémie chapitre 1, verset 4 à 11 que nous avons lu, nous le voyons dans la prière, il confesse les péchés de son peuple. Mais deuxièmement, il rappelle l'alliance qui lie Dieu à son peuple. Mais j'aime à la fin, il sollicite l'accompagnement de Dieu. Verset 11, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent te craindre. Et j'aime ce qu'il dit à la fin, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Il veut dire, le succès, je ne peux le trouver seul. Je suis trop limité, trop petit pour me battre. Il dit, accompagne-moi. Accompagne-moi. Quand je parle ainsi, je pense à une histoire qu'on relate souvent en Côte d'Ivoire, d'une fourmi prétentieuse. Il semble qu'il y avait une fourmi qui était sur le dos de l'éléphant. Et ils ont commencé à traverser le pont, et le pont a commencé à bouger. La fourmi qui était sur le dos de l'éléphant, il lui a dit, tu as vu comment toi et moi on a secoué le pont. Nous sommes de petites fourmis sur le dos de Jésus. Mais avec lui, nous secouons les ponts. Mais c'est lui qui fait tout le travail. Je suis trop petit pour ce travail. Donne du succès à ton serviteur. La version française courante dit, fais réussir les démarches que je vais entreprendre. Et permets que les rois y répondent avec bienveillance. Ce qu'il veut dire, je sais parler, je sais argumenter, je sais comment écrire une belle lettre pour présenter ma candidature, mais je sais que ça va au-delà. C'est lui avec qui je vais parler. C'est toi qui l'as créé. Et j'aime quand les psalmistes disent une chose merveilleuse. Plutôt les sages disent, même les cœurs de rois sont comme un courant d'eau entre les mains de Dieu
qui peut le pencher à sa guise où il veut. Ah, il arrive des fois quand nous n'avons pas accès auprès des rois, nous pouvons toucher les rois des rois, qui peut lui conditionner les rois. Donne du succès. Donne du succès. La prière au départ. Mais deuxième chose dans laquelle nous voyons la dépendance et la coopération avec Dieu. La prière, mais aussi la dépendance vis-à-vis de Dieu au moment stratégique. Néhémie chapitre 2, on voit combien Néhémie travaille en association avec Dieu. Il a prié, il a demandé à Dieu qu'il veut retourner. Mais il se disait, Seigneur, donne-moi une occasion. Néhémie chapitre 2, le verset premier dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme les vins étaient devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Waouh, et l'inattendu est arrivé. Que dis-je? L'attendu. C'est pourquoi il avait prié. J'aime ce que mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, disait. Il disait, la prière est toujours notre part. L'exaucement, c'est-à-dire les quand, les comment, c'est la part de Dieu. Il dit, la plupart des fois, nous tombons dans ce que lui l'appelait le syndrome de Naaman. Naaman, c'est le type de personnes qui non seulement prie, mais schématise l'exaucement. Parce que Naaman, certes, avait fait le déplacement de là où il était jusqu'en Samarie pour obtenir l'exaucement. Mais quand il arrive, l'exaucement vient par un autre chemin, un autre scénario que le scénario auquel il avait pensé. Le serviteur de Dieu ne le reçoit même pas. Il envoie son adjoint, son assistant. Il dit, allez lui dire, de se jeter dans ses eaux cette fois. Écoutez sa réponse. Je croyais que l'homme de Dieu sortirait. Il poserait sa main sur la partie malade et je serais. Notre problème, c'est ça, nous croyons que. Quand nous prions, nous schématisons déjà l'exaucement. Ça va venir comme ça. Dieu, quelquefois, il veut rester Dieu. La prière, c'est notre part. L'exaucement, c'est la part de Dieu dans les comment et dans les quand. Et Néhémie avait prié. Il ne savait pas comment ça allait venir. Et subitement, le roi lui donne une ouverture. Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. J'ai répondu au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage alors que la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et ses portes sont consumées par le feu? Waouh, écoutez le verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? C'est tout ce que j'attendais. C'est tout ce que je désirais. Mais j'aime encore, au moment où la porte semble ouverte, il dit, non, je ne vais pas y aller. Les yeux fermés, dépendance vis-à-vis de Dieu. Il a même le temps de prier. La Bible dit, j'ai prié le Dieu des cieux. Je ne pense pas que c'était une prière à haute voix. C'est au fond de son cœur. Quand le roi a dit, que demandes-tu? Le roi a vu un silence de 30 secondes. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Aide-moi, ne pas rater cette occasion. 30 secondes peut-être. Et j'ai répondu, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, waouh, tact, diplomatie, bienséance, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Waouh! Il sent que Dieu est là, il dit non, non, non. Je dois en profiter. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs. Toute cette partie me plaît. On sent que c'était un homme spirituel, mais un homme réfléchi aussi. Après avoir prié, il a sûrement établi un business plan. J'aurais besoin de ça, de ça. Remarquez quand le roi lui a dit, de quoi auras-tu besoin? Il n'a pas dit, roi, je peux revenir demain. Il savait exactement. Si le roi les trouve bons, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Il connaissait tout ce qu'il pouvait y avoir comme obstacle. Il va plus loin, verset 8. Et une lettre pour Asaph. Il connaît même les noms. Garde forestier. Afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle. Ça, j'en ai besoin pour ça.
pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Waouh, j'aime la fin. Le roi me donna ses lettres. Et écoutez la fin. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ça m'a été donné parce que j'ai travaillé avec un associé. Invisible mais présent. Pas vu, mais qui est là. Seigneur, aide-moi à t'avoir toujours comme associé. La bonne main de son Dieu, c'est ce qui a fait la différence. La version française courant dit, car mon Dieu m'a accordé sa protection. Les termes la bonne main de Dieu revient au moins 6 fois dans le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Ce terme veut simplement dire que Dieu accompagne quelqu'un. Dieu avait quelqu'un et c'est riche de voir chaque fois que cette bonne main est mentionnée, tout ce qu'elle peut faire. Dans le passage que j'aime, c'est Esdras chapitre 8 au verset 18. J'aimerais qu'on me le place, merveilleux passage. Esdras vient pour rebâtir les temples, faire du bon travail. Il a tout ce qu'il a comme matériaux, mais il manque les hommes. Mais j'aime ce qu'il dit. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Sherebia, homme de sens, d'entre les fils de Maki, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils, ses frères, au nombre de 18. Quand vous lisez la suite de l'histoire, Sherebia, ça a été un homme. Quand on dit homme de sens, ça veut dire un homme qui réfléchit vite et bien. Il y a certains qui réfléchissent bien, mais lentement. Un homme de sens. Et la Bible dit, il est venu, il a été donné à Esdras. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Quand la bonne main de Dieu est sur vous, ça peut vous attirer de bonnes personnes. Je suis avec mon épouse, pasteur, titulaire d'une église depuis maintenant 6 ans. Et quand nous voyons la qualité des gens que Dieu a placés tout autour de nous, on s'est dit aucun concours aurait pu amener de telles personnes. Quand je vois Atom Sumbuma, l'un des meilleurs musiciens, conducteur de la louange et l'adoration, et quand il prêche, je dis c'est comme si Dieu lui a donné le fruit de la Bible. Chez nous, on l'appelle Astérix, quelques-uns l'appellent Obélix. Pourquoi on l'appelle comme ça? On dit, nous tous, nous recherchons l'onction, et nous parlons de l'onction comme la potion magique. Je dis, nous, on a besoin, comme Astérix le Gaulois, de boire. Mais dis-lui, il était tombé dedans, il n'a pas besoin de boire ça. Tellement profond, il ne force pas. Il est fort, c'est gênant. Juste une petite anecdote. Un dimanche, j'ai invité un prédicateur. Et comme j'ai appris auprès de mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, chaque fois que j'invite un prédicateur étranger, je prépare toujours une prédication au cas où. Parce que les au cas où, ça arrive souvent. Et c'est pas toujours évident de commencer à préparer une prédication rapidement. Mais celui-là, je l'ai invité 10 fois. Et 10 fois, il est venu. Et puis voilà. Ce jour-là, le culte a commencé à 7h30 jusqu'à 7h45, il n'arrivait pas. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. À 7h50, quelqu'un vient nous amène un petit mot. Non, il a un problème d'indigestion. Il ne sait venir. Waouh, la pire des choses pour un pasteur, pour des dirigeants, c'est de commencer à trouver un prédicateur bouche-tout. Et j'ai pris mon adjoint, le pasteur Atom, ainsi que le deuxième adjoint, le pasteur Ken. J'ai dit, on a un problème. Atom m'a demandé lequel. J'ai dit, il faudrait un remplaçant. Il est resté calme. Il dit, Dieu m'a dit depuis hier que j'allais prêcher aujourd'hui. J'ai dit, c'est vrai. Et puis, il a ouvert ses notes. Il dit, voici ma prédication. Et le thème de son message, c'était, il était une fois un dimanche matin. Et il avait déjà écrit, culte de tel jour, tel message. Quand je regarde, j'ai dit, mais toi, tu es sorcier petit. Et il est monté là, apportant un message. Quel message? Ça, c'est la bonne main de Dieu. Et Néhémie dépendait de Dieu, et cette main de Dieu a fait toute la différence. Troisième moment où nous voyons Néhémie travailler en association avec Dieu, il a fait intervenir encore la prière pendant les moments d'adversité, les moments de difficulté, les moments des grands défis. Néhémie chapitre 4, du premier verset au verset 5e, il a déjà commencé à construire. Les murailles sont en train de s'élever petit à petit. Mais en même temps que les murailles sont en train de s'élever, l'adversité aussi s'élève. Écoutez ce qu'il dit. Je pense avec la grâce de Dieu. On pourra en reparler plus tard. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on? Vont-ils sacrifier? Vont-ils achever? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobie Jalamonite était à côté de lui. Il s'est même à être ironique qu'il bâtit seulement pour montrer ça ne vaut rien. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Est-ce qu'un renard peut renverser une muraille de pierre? Mais j'aime la réaction de Néhémie. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. La dépendance vis-à-vis de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Le verset 8 à 9 dit, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Mais le verset 9 dit encore, nous priâmes notre Dieu. Il nous établit une garde jour et nuit pour nous défendre contre toutes les attaques. Il y a à la fois des précautions humaines, mais il y a aussi l'aspect spirituel. Seigneur, nous voulons dépendre de toi et dépendre de toi totalement. Mais j'aime qu'en Néhémie chapitre 6, verset 14 à 16 nous parle de la, non seulement d'une prière qu'il a eu à faire, mais finalement de la fin. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballa et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. La prière encore. Mais les versets 15 et 16 disent, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Lorsque nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Quand ils ont vu tout ce qu'ils ont eu à soulever comme adversité, mais malgré cela, chaque adversité, il y a toujours la victoire. Tous ils sont restés dits, ça c'est made by Jehovah. Parce que sans Dieu, il ne serait pas arrivé là. La grande question, alors que je termine cette intervention ce soir, une question essentielle. Qui Dieu accompagne-t-il? Avec qui Dieu peut-il constituer une association? Pour qui Dieu peut-il devenir le soutien? Je réponds en quatre temps. Premièrement, Dieu n'accompagne pas tout le monde. Dieu n'est pas le soutien de tout le monde. Deuxième réponse, Dieu accompagne les hommes et les femmes qui s'attachent à lui. Deux Chroniques chapitre 16 au verset 9, c'est un merveilleux passage, la Bible déclare, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. Il étend son regard, il cherche. Y a-t-il quelqu'un qui est en symbiose avec moi, en harmonie avec moi? Je ferai de son problème mon problème. Son combat, mon combat. Troisièmement, Dieu vient en association par rapport à l'homme et à la femme qui l'honore. C'est-à-dire, l'homme et la femme qui cherchent premièrement, et quoi qu'il arrive, à lui plaire. À lui plaire premièrement par sa qualité de vie. 1 Samuel 2, verset 30e, Dieu dira au sacrificateur Élie, je n'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Quatrièmement, Dieu vient en association aux hommes et aux femmes qui font des choses, qui posent des actes selon sa volonté. Jean chapitre 9, verset 31, il est dit, c'est Christ qui parle, si quelqu'un m'honore et fait la volonté de mon Père, c'est celui-là que mon Père exauce. Il fait la volonté de mon Père. 1 Jean chapitre 5, verset 14, ajoute, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. En terminant, j'aimerais dire deux groupes de choses et puis nous allons prier. La première, c'est faire mention des trois personnes très désireuses d'avoir Dieu comme partenaire dans leur entreprise. Malgré qu'ils avaient des... Exode 33, verset 15 à 16. Israël vient de fauter. Ils ont fait les veaux d'or et ils ont vu la main de Dieu frapper et punir. Et Dieu dit, je remets les compteurs à zéro, je vous laisse partir. Moïse ne veut pas aller seul. J'aime sa requête. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. On aimerait que tu nous accompagnes. J'aime encore Genèse chapitre 24, verset 10 au verset 12. Éliézer, le serviteur d'Abraham, est envoyé pour aller chercher une femme pour Isaac. Il a l'intelligence, sûrement l'expérience de la vie. Mais quand il arrive juste avant d'entrer dans le village, il élève sa voix. J'aimerais aller faire telle entreprise. Seigneur, marche avec moi. La jeune fille à laquelle je demanderais de l'eau pour moi-même et qui donnerait même de l'eau à tout ce que j'ai comme quantité d'animal, ce sera cette jeune fille-là. J'aime ce que ma Bible dit. Il n'avait pas encore fini de prier que l'exaucement est venu. Dieu aime ce qui dépend de lui. De Samuel chapitre 5, verset 17 à 19, David vient d'être oint comme roi. Et à peine les Philistins apprennent qu'il est oint comme roi, ils s'élèvent, ils veulent l'attaquer. David a une armée, David a des armes. David s'élève, il dit, Seigneur, combattrai-je? Vas-tu me donner du succès? Dieu lui dit, vas-y. Mais la dernière des choses avec laquelle je termine, j'aimerais dire, les partenariats avec Dieu n'excluent pas l'activité de l'homme. J'aimerais insister. Les partenariats avec Dieu n'excluent pas l'activité de l'homme. C'est-à-dire n'exonère pas l'homme d'être aussi un acteur, et permettez-moi la tautologie, un acteur actif. Ici, en Occident, vous êtes un peu plus équilibré. Chez nous, en Afrique, on a des fois une foi bancale. Une foi, des fois, qui laisse Dieu tout faire. J'ai vu des gens avoir tellement une grande foi. Seigneur, pour que je sache que tu es Dieu, aujourd'hui, je ne vais pas balayer ma parcelle, que les anges viennent. Et je saurai que tu es là. Un autre a dit, Seigneur, pour que tu me montes à toute puissance, aujourd'hui ma main ne va pas aller vers la nourriture, que la nourriture saute, tu attendras longtemps. Le fait que tu es en association avec Dieu n'exclut pas aussi que tu fasses ce que tu dois faire. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, disait cette belle phrase. Il dit, Dieu ne fera jamais ce que nous devons faire. Il fera toujours ce que nous ne pouvons pas faire. Là où nous devenons incompétents, c'est ce que lui, il va faire. Et pour qu'il y ait reconstruction des murailles partant des décombres. Au-delà de la prière, quelquefois sur le plan relationnel, il faut aller demander pardon à quelqu'un. Il ne faut pas se limiter à la prière. Pardonne-moi chérie, j'avais fauté, j'avais mal parlé. Je ne me suis pas bien occupé de toi et les décombres de la vie du couple vont changer. Quelqu'un doit poser un acte. Et Néhémie chapitre 3, du premier verset au verset 32. Les mots travail, travail, revient au moins 20 fois. Il a prié certes, il a demandé à Dieu, mais il a mis des gens au travail. Ceux à tel endroit, tel autre groupe de personnes, même des sacrificateurs. Et pourtant il a prié. Et pourtant il savait que Dieu était avec lui. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillons en vain. Je voudrais qu'on ferme nos yeux un petit moment. Je voudrais que les musiciens reviennent avec moi, chantent simplement cet avant-dernier cantique, avant que nous puissions déclarer notre identité. Ils vont les chanter deux, trois fois.